Le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'Occident pleure la mort de Shimon Peres. Le monde arabe ne réagit pas à la disparition de l'ancien président israélien. Nous irons au Caire rejoindre notre correspondant en Égypte, François Umferkataji. Les enquêteurs internationaux sont formels. C'est un missile venu de Russie qui a abattu le vol MH17 en 2014 en Ukraine. Kiev demande des comptes à Moscou. Les explications de Sébastien Gobert dans ce journal. En France, le gouvernement promet un budget 2017 proche de l'équilibre. Le MEDEF critique une politique fiscale hostile aux entreprises. Les précisions de Jean-Marc Chardon et l'analyse de notre invité, le fiscaliste Michel Talley. Il est difficile ce soir de parler d'un hommage unanime de la communauté internationale à Shimon Peres, l'ancien président israélien, mort la nuit dernière à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. L'ensemble des dirigeants occidentaux saluent la mémoire du prix Nobel de la paix, l'un des trois artisans des accords d'Oslo avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Hommage également du président russe Vladimir Poutine et du patron de l'ONU Ban Ki-moon. En revanche, le monde musulman garde le silence. Il n'y a guère que le président palestinien Mahmoud Abbas pour voir en Shimon Peres un partenaire courageux pour la paix. Pour le reste, on attend toujours une réaction officielle de l'Égypte et de la Jordanie, les deux seuls pays arabes qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. L'hostilité des populations arabes à l'encontre de l'État hébreu explique sans doute ce mutisme. Illustration en Égypte avec notre correspondant François Umferkataji.
Plusieurs heures après le décès de l'ancien Premier ministre israélien, il n'y a toujours aucune réaction officielle de la part du président Sisi. Pourtant, les liens entre Égypte et Israël depuis le coup d'État de Sisi en 2013 se sont considérablement réchauffés. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry s'est rendu à Jérusalem cet été. Il a même eu ce commentaire remarqué « Nous avons des liens très solides et une relation apaisée avec Israël ». Il a ajouté « L'État d'Israël n'est pas un État terroriste. Il faut dire que les deux pays ont véritablement un ennemi commun ». Le Hamas, émanation des frères musulmans. Alors pourquoi Sisi ne s'est toujours pas exprimé si les relations en coulisses sont si bonnes? Ce silence bien paradoxal traduit bien sûr son embarras, car de façon générale en Égypte, on ne pleure pas la mort de Shimon Peres. Si une grande partie des chefs d'État sur la scène internationale mettent en avant le côté pile de l'homme d'État, celui d'un homme de paix, sur les réseaux sociaux égyptiens, on retient plutôt le côté face, c'est-à-dire un homme qui est à l'origine des bombardements de Kana en 96, tuant 106 civils pendant la guerre israélo-libanaise. On retient son soutien inconditionnel au mur de séparation ou encore à la guerre en Irak. Autrement dit, un hommage appuyé de Sisi à l'ancien homme d'État israélien serait tout à fait mal vu par l'opinion publique, surtout au moment où la popularité de Sisi est au plus bas. Aujourd'hui, les médias israéliens font fuiter des informations sur une éventuelle présence de Sisi aux obsèques de Shimon Peres. Sisi devra donc choisir entre vexer les Israéliens ou soulever la colère des Égyptiens.
François Umferkataji a noté aussi cette réaction haineuse du Hamas. Le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza affirme que le peuple palestinien est heureux de la mort de Peres, ce criminel. Fin de citation. Le corps de Shimon Peres sera exposé demain à la Knesset, le Parlement israélien. Ses obsèques auront lieu vendredi en présence de nombreux chefs d'État. Barack Obama, François Hollande ou le Canadien Justin Trudeau seront notamment présents. Shimon Peres sera ensuite enterré au cimetière national du Mont Herzl. Les enquêteurs internationaux dirigés par la justice néerlandaise sont formels. Le missile qui a abattu le Boeing de la Malaysian Airlines en 2014 en Ukraine venait de Russie. Les 298 occupants du vol MH17 avaient trouvé la mort dans cette attaque. La moitié des victimes étaient néerlandaises. L'avion avait été abattu dans une zone du Donbass contrôlée par les séparatistes pro-russes. Pour l'enquête internationale, le missile de type Buk avait été acheminé depuis le territoire russe. Ce soir, l'Ukraine se félicite de ses conclusions et demande des comptes à la Russie. Sébastien Gobert nous appelle de Kiev.
Le monde entier sait désormais qui porte la pleine responsabilité de cette attaque terroriste. En d'autres termes, la Russie. Le président Petro Poroshenko n'y va pas par quatre chemins. Les enquêteurs internationaux ont refusé dans leur rapport d'engager la responsabilité directe du Kremlin, mais le fait qu'un lanceur de missiles Buk de l'armée russe a pu traverser la frontière ukrainienne en 2014, tirer un missile contre le Boeing MH17 et repasser ensuite en Russie est pour les Ukrainiens une preuve suffisamment accablante. Les résultats de l'enquête confortent aussi l'exécutif à Kiev qui dénonce depuis 2 ans la guerre du Donbass comme une agression directe de la Russie contre l'Ukraine et non comme une guerre civile. C'est la fin de la tentative russe de discréditer l'enquête internationale sur le MH17, estime encore Mariana Betsa, porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Kiev. Les Russes avaient longtemps accusé l'armée ukrainienne d'avoir abattu le Boeing. Ils avaient avancé différentes théories faisant état d'un avion de chasse ukrainien, remplacé plus tard par un missile tiré depuis les positions ukrainiennes. Des preuves controversées qui sont aujourd'hui réfutées par les enquêteurs internationaux, même si le Kremlin réfute lui-même les résultats de cette enquête. Se pose donc aujourd'hui la question de la capacité des enquêteurs à trouver les coupables de la tragédie. Une centaine de personnes seraient impliquées selon eux. Mais sans coopération de la part de la Russie, il y a peu d'espoir qu'il soit jamais traduit en justice.
Sébastien Gobert, notre correspondant en Ukraine. C'est un proche de Nicolas Sarkozy qui se retrouve aujourd'hui poursuivi par la justice. Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur, a été mis en examen ce soir, notamment pour trafic d'influence. Après avoir quitté la police, celui que l'on surnomme le Squal avait fondé une société de conseil en sécurité. La justice le soupçonne d'avoir utilisé ses contacts policiers pour ses activités privées. On retrouve Nathalie Hernandez au palais de justice de Paris.
Au terme d'une audition de 3h30 devant les juges et après 48 heures de garde à vue, Bernard Squarcini est donc mis en examen. Il reste libre sous contrôle judiciaire et peut continuer d'exercer ses activités de conseil. La liste d'infractions qui lui est reprochée est longue, selon son avocat Maître Maisonneuve, mais l'essentiel concerne ses relations avec des policiers toujours en activité.
Il est notoriété publique qu'il y a des contacts entre des anciens fonctionnaires ou des anciens militaires d'ailleurs, et les fonctionnaires en activité. C'est ce que l'on reproche aujourd'hui à Monsieur Squarcini, alors que c'est quelque chose et une pratique qui est connue et qui est assez courante.
Ce que va contester en revanche fermement Bernard Squarcini, c'est d'avoir renseigné ses clients en matière de contrefaçon des informations classées secret défense obtenues auprès d'agents de la DGSI. Et ces informations auraient concerné des dossiers liés au terrorisme islamiste.
Nathalie Hernandez, merci. Le gouvernement a présenté son projet de budget pour 2017, le dernier du quinquennat Hollande avant les échéances électorales du printemps prochain. Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, l'a martelé ce matin. Ce projet permettra à la France de ramener le déficit public à 2,7% du PIB sous la barre des 3% exigés par Bruxelles. Le ministre qui se félicite aussi d'avoir effacé les hausses d'impôts et de charges subies par les entreprises depuis 5 ans. Seulement voilà, Jean-Marc Chardon, le MEDEF ne fait pas le même calcul.
Eh oui, une belle bataille de chiffres qui nous conduit tout droit dans la surenchère des graphiques. Alors vous imaginez le tableau du ministre de l'économie et des finances en forme de chapeau pointu, la fiscalité entreprise qui grimpe à toute allure de 2011 à 2013, puis descend presque aussi vite. En face, la réplique du MEDEF, la décrue à partir de 2014, oui, mais pas suffisante pour effacer l'effet des hausses précédentes. François Roux-de-Bézieux, vice-président du MEDEF, pointe la création de près de 90 taxes nouvelles depuis 2010. Il incrimine notamment des taxes locales, taxes carbone, hausse de cotisations retraite, des suppressions de déductions également. Jusqu'à faire un tout autre diagnostic que Michel Sapin, François Roux-de-Bézieux.
C'est l'inverse, 16 milliards d'euros. Ce chiffre n'est pas discutable, il est une somme arithmétique de toutes les taxes. En additionnant les 87 augmentation qu'on a répertoriée, votée depuis 2010. Le quinquennat, c'est une augmentation massive des impôts pour les Français et les entreprises pendant les deux premières années et une baisse insuffisante dans la deuxième partie. Donc si vous me demandez si la deuxième mi-temps du quinquennat a été positive pour les entreprises, oui, mais la première mi-temps a été tellement négative que la deuxième mi-temps ne suffit pas à compenser les hausses d'impôts du départ.
Et ce n'est pas le projet de loi de finances pour 2017 qui va tempérer le diagnostic du MEDEF, projet qui prévoit plusieurs mesures en faveur des entreprises, baisse du taux d'impôt sur les sociétés et relèvement du CICE. Vu du MEDEF, eh bien, l'allègement qui va en résulter ne compensera pas les fortes hausses de 2011 à 2013.
Jean-Marc Chardon, merci. Invité de ce journal, le fiscaliste Michel Talley, président de l'Observatoire des finances publiques de l'Institut de l'entreprise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je précise que vous avez longtemps travaillé dans l'administration fiscale, que vous avez d'ailleurs dirigé. Vous avez aussi travaillé au sein de nombreux cabinets ministériels, de droite comme de gauche. Première question, Michel Talley, un projet de budget à quelques mois d'échéances électorales majeures. Est-ce que c'est forcément un exercice très politique ?
Évidemment, la loi de finances de la dernière année, elle tombe au moment où les partis politiques sont en train de préparer leur programme pour l'élection qui vient et donc le quinquennat qui suit. Donc forcément, il y a une mise en perspective. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que Monsieur Sapin, ce matin, à sa conférence de presse de 8 heures, a passé les 10 premières minutes, non pas à expliquer ce qu'il y avait dans la loi de finances, mais à mettre en perspective cette loi finance, non seulement dans le quinquennat actuel, mais se lançant aussi dans une analyse critique du quinquennat précédent.
Est-ce qu'il n'y a pas pour l'actuelle majorité finalement la tentation d'engager des dépenses que la nouvelle majorité devra assumer ?
Alors, ça serait faire le présupposé qu'ils considèrent qu'ils ne seront pas forcément toujours là pour le quinquennat suivant. Ce qui est sûr, c'est que dans les mesures techniques, on voit bien que les ficelles habituelles d'une loi de finances, du genre « je repousse sur l'année d'après des dépenses que j'aurais dû prendre » ou « j'anticipe cette année des recettes que je n'aurais eu que l'année d'après » a atteint là des niveaux assez extraordinaires. Quoi. Je veux dire, je suis les lois de finances depuis longtemps. Là, quand même, l'exercice a pris une belle ampleur.
Vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Alors, il y a déjà le crédit d'impôt compétitivité, qui, pour des raisons techniques, n'est pris en charge que l'année d'après. Donc, il y a 3 milliards qui auraient dû être en 2017, qui était la disparition de la fameuse contribution C3S. Et à la place, on nous dit, je vous donne aussi 3 milliards, c'est ce que je vous les donne sur 2018. Donc, effectivement, là, il y a déjà 3 milliards qui se promènent. Vous avez des acomptes d'impôts sur les sociétés, de taxes surface commerciale, de prélèvements libératoires des épargnants que les banques doivent payer l'année d'avant. Tous ces acomptes sont fortement majorés. Donc, il y en a pratiquement pour 1 milliard qui sont des recettes qui auraient dû être faites en 2018, qui vont remonter sur 2017. Donc, on peut considérer que ça porte sur plusieurs milliards, effectivement.
La pression fiscale, on le sait, a beaucoup augmenté sous François Hollande. Est-ce que c'est forcément la marque d'un gouvernement de gauche, cette augmentation de la pression fiscale ?
C'est la résultante d'une réhabilitation de la dépense publique. On voit bien que la gauche actuellement est redevenue ou restée keynésienne, c'est-à-dire que pour elle, c'est la dépense qui crée la croissance. Et donc, la raison pour laquelle le gouvernement prévoit une croissance plus forte que les autres, c'est que comme il a prévu de faire plus de dépenses, c'est normal qu'il ait plus de croissance que ce qu'attendent les organismes économiques libéraux, pour qui, évidemment, le Brexit et tout le reste entraînent une moindre croissance. Donc, ils croient à la dépense publique, et donc, pour faire la dépense publique, ils sont bien obligés d'augmenter les impôts.
D'une façon générale, Michel Talley, comment faire finalement pour que la fiscalité échappe aux catégories politiques, échappe à la droite comme à la gauche ? Est-ce qu'il peut y avoir une fiscalité finalement apolitique ?
Il n'y a pas de fiscalité apolitique, parce qu'une fiscalité n'est pas bonne ou mauvaise, elle est cohérente avec un projet politique. Moi, je suis un technicien de la fiscalité, j'ai une boîte à outils, je la mets à la disposition, je peux, avec la même boîte à outils, faire la fiscalité plus redistributive ou plus fiscalité de l'offre, tout ce qu'on veut, mais au moins, il faut être clair dans ce qu'on dit. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas qu'on fasse des politiques à forte connotation politique, c'est que on instrumentalise la fiscalité, c'est-à-dire qu'on profite du fait que c'est très technique et que les gens comprennent pas grand-chose pour dire des choses qui sont de purs mensonges. Et moi, en tant que technicien, quand j'entends ça, ça me révolte, pour effectivement faire de la fiscalité un outil de communication. Par exemple, il y a une chose qui me choque dans la façon dont on explique ce qui s'est passé à l'impôt sur le revenu. C'est que le langage, c'est de dire, on a augmenté l'impôt sur le revenu à la fois des plus riches et de catégories moyennes, voire un peu plus modestes, mais c'était un effort qu'on a été obligé de faire en début de quinquennat, mais à la fin du quinquennat, pour les plus modestes, on leur rend tout ce qu'on leur a pris. C'est vrai en nombre de milliards, mais individu par individu, ce n'est pas vrai, puisqu'on a pris, on a augmenté l'impôt par des mesures d'assiette, en supprimant des niches fiscales. Donc c'était ciblé sur les bénéficiaires de ces niches. Notamment ceux qui font des heures supplémentaires, ceux qui ont des complémentaires maladies prises en charge par leur employeur, les majorations de retraite pour ceux qui avaient eu des enfants, etc. Et le même nombre de milliards a été rendu par des mesures de barème qui ont été réparties sur tous les contribuables de la même catégorie. Donc, ceux à qui on avait pris n'ont pas reçu en fin de quinquennat ce qu'on leur avait pris au début. Certains ont eu plus qu'on leur avait pris, d'autres ont beaucoup moins que ce qu'on leur avait pris. Et en fait, On a bien, effectivement, 6 milliards pris, 6 milliards rendus, mais il s'est passé tout un tas de choses au sein d'une catégorie de contribuables pour une même catégorie de revenus, qui sont des transferts de charges, dont je ne suis même pas sûr qu'ils aient été voulus, et en tout cas qu'ils ne sont pas assumés.
Michel Talley, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie au livre que vous venez de publier aux presses universitaires de France, Les coulisses de la politique fiscale. Un mot du temps, demain, du soleil presque partout, seul le nord-ouest sera sous les nuages, température maximale toujours très douce, 22 à 27 degrés sur la moitié nord, 26 à 30 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.